Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h50 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine. Un magazine en deux parties, vous le savez maintenant. Bienvenue. Ce qui a explosé ce mardi 4 août à Beyrouth n'est pas seulement un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est aussi toute la colère contenue dans le cœur des Libanais, écrit ce matin dans les colonnes du journal Le Monde le dramaturge Wajdi Mouawad. Voilà pourquoi, malgré les destructions, malgré les morts et les chagrins insupportables de ces morts et de ces disparus qui se rajoutent à la cohorte des morts et des disparus, ce qui vient d'arriver est du côté du peuple libanais. Cette explosion et de leur côté, elle est leur dernière force jetée dans la bataille contre ceux qui les écrasent. Elle est, malgré le malheur qu'elle amène avec elle, leur ange exterminateur. Elle pose un point final à toutes les mascarades. Il faut le lire, ce texte de Wajdi Mouawad, et entendre la colère des Libanais qui ne veulent plus qu'on leur dise bon courage et qui n'en peuvent plus de se voir saluer comme résilients, comme ces jeunes qui ont pris l'initiative par eux-mêmes d'aller balayer les décombres de Beyrouth.
La municipalité absente, là, l'État absent.
Les politiciens sont chez eux à la maison, donc on doit compter sur nous, sur nos voisins, sur nos proches.
Il n'y a que de la corruption et ça commence pas dès maintenant. Ça fait 30 ans que les mêmes têtes sont au pouvoir. 30 ans que ça n'a pas changé. Rien n'a changé. On n'a même pas d'électricité, même pas d'eau.
Vous n'avez pas d'électricité chez vous,
hein. Il y a 10 coupures minimum d'électricité par jour.
Ce pays, c'est de la merde. Ils nous ont escroqués. La Daoulé, notre État, c'est des incompétents, corrompus.
Des criminels, je vais dire.
Ils ont
des criminels.
C'est eux qui nous ont tués, c'est eux.
Extrait du journal télévisé de France 2 hier soir, alors que l'aide internationale doit venir au secours d'un pays qui était déjà à bout de souffle, la société civile demande surtout qu'elle ne vienne pas, cette aide, nourrir la corruption et l'injustice, reconstruire le Liban. Avec qui? Nous en parlons avec nos deux invités aujourd'hui. Aurélie Daher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris. Et nous sommes également en liaison depuis Beyrouth avec Karim Émile Bitar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci également d'être avec nous. Quelles images, peut-être pour commencer, de Beyrouth ce matin, 4 jours après l'explosion, est-ce que vous pouvez nous rapporter d'ores et déjà?
Alors, plusieurs centaines de personnes commencent à se diriger vers la place des Martyrs au cœur de Beyrouth, où doit se tenir aujourd'hui à 17h une grande manifestation. C'est le jour de la colère, le jour où on va demander des comptes. C'est une gigantesque manifestation qui doit se tenir. On sent plus que de la colère, de la rage, une sourde détermination, des Libanais qui essaient de transformer leur tristesse en quelque chose de politique, en une sorte de tristesse active et résolue, comme disait André Gide, une sorte de mélancolie proactive, c'est-à-dire qu'on était jusque-là dans de l'accablement, dans de la dépression, et on essaie aujourd'hui de surmonter cet effet d'accablement et de passer à quelque chose qui transforme cela en de l'action, en une volonté de changement. On est plus que jamais déterminé à aller au bout de ce mouvement de protestation qui avait débuté en octobre 2019 et qui vise à mettre à bas cette oligarchie qui domine le Liban depuis une trentaine d'années. On a des institutions démocratiques de façade, un gouvernement, un parlement, mais la réalité du pouvoir est entre les mains de 5-6 personnes, des forces contre-révolutionnaires qui sont déterminées à s'accrocher. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que même parmi l'électorat traditionnel de ces partis au pouvoir, il y en a beaucoup qui sont déterminés eux aussi à rejoindre les rangs de la révolution libanaise.
En vous écoutant, Karim Ebine, Bitar, je me pose une question que je voudrais vous poser. Je vous entends dire « on a », en tant que directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Est-ce que vous avez toujours parlé de l'opposition libanaise, de cette jeunesse qui s'est soulevée, de ce peuple qui s'est soulevé, en disant « on » ou est-ce que là c'est nouveau pour vous ?
Oui, je crois que c'est cela. Vous touchez un point intéressant, c'est que tout le monde est en train de sortir de cette neutralité, de cet académisme. Aujourd'hui, il y a le sentiment d'une telle urgence qu'il faut se départir de cette distanciation. On se sent être les acteurs d'un tournant historique dans l'histoire du Liban. On ne peut plus se permettre d'être de simples observateurs, de simples analystes. Il faut devenir des activistes, bien sûr, tenter de rester objectifs dans rentrer, tenter de ne pas devenir trop militant. Mais il y a une telle urgence qu'il faut prendre parti, il faut décrire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes face à une véritable mafia qui gouverne ce pays et il ne faut plus prendre des pincettes pour la décrire. Nous sommes dans une situation insurrectionnelle. La vie de chacun d'entre nous est en cause. Ce n'est pas tous les jours que 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sont entreposées au cœur de zones résidentielles et mettent en danger la vie de chacun d'entre nous.
À 30 mètres des habitations. On a vu ce matin, après je me tournerai vers Aurélie Daher, mais on a vu ce matin sur un quart d'une page du journal L'Orient le Jour, mais aussi dans d'autres titres de la presse libanaise, apparaître un encadré titré « Message des partisans de la révolte au mouvement et parti qui les représente », signé un collectif de citoyens libanais. Est-ce que vous faites partie, Karim Bitar, des signataires de ce message ?
Je les connais, c'est un groupe de jeunes citoyens libanais qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, qui en ont assez de voir l'opposition fragmentée, disparate, et qui savent que des négociations sont en cours, mais qu'elles se heurtent à des obstacles, à des questions d'ego, à des querelles de clochers, et qui souhaitent adresser un message fort aux leaders de cette opposition, qu'il est temps de surmonter les querelles du passé, qu'il est temps de s'unir, qu'on ne peut plus se permettre ces petites querelles et qu'il est temps de parler d'une voix unie, qu'il est temps de faire front comme la classe politique fait front. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des gens qui se sont affrontés pendant les années de guerre, qui a du sang à couler entre eux, et pourtant ils gouvernent au sein de gouvernements d'union nationale depuis une vingtaine d'années. Ils se sont entretués, ils ont fait des centaines de milliers de victimes, et ils gouvernent ensemble, ils se partagent les postes et les prébendes. Donc il est temps que cette opposition libanaise dépasse les petites querelles, parce qu'elle est d'accord sur le fond, les plateformes politiques sont assez proches. Il est temps de s'unir pour proposer une alternative crédible. C'est d'ailleurs ce que le président Macron a encouragé les forces d'opposition libanaises à faire au cours de sa visite cette semaine.
Voilà, vous l'avez rencontré, on en parlera tout à l'heure. Je cite un extrait de cette tribune. « La responsabilité des partis politiques de l'establishment dans la tragédie qui frappe les Libanais n'est plus à démontrer. Elle est accablante. De même que l'on exige des responsables politiques qu'ils s'en aillent, les partis d'opposition ont l'obligation de s'unir pour proposer une alternative crédible. » Est-ce qu'une alternative crédible est possible, Aurélie Daher ? Ils en appellent notamment au Bloc National, au Parti communiste libanais, aux députés indépendants. Est-ce que quelque chose est possible dans l'opposition ?
Mais alors, moi je voudrais remercier Karim pour cet exposé très clair. Et en même temps, ça va me permettre de faire la suite.
Claire et émue.
Absolument, mais on est tous émus. Ça, au moins, c'est s'il y a une bonne nouvelle dans cette grande catastrophe qui nous est tombée dessus il y a quelques jours et dans l'énorme crise socio-économique qu'on vit de manière particulièrement virulente depuis l'automne dernier, c'est que tout le monde est d'accord sur ce qui, en théorie, devrait être fait. C'est-à-dire, on est d'accord sur le produit final auquel on voudrait arriver. Et on est tous d'accord sur le fait qu'on est dirigé par des corrompus. Et ça, alors j'écoutais tout à l'heure donc les témoignages des jeunes qui disaient ils sont tous corrompus et ça fait 30 ans. Oui, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas à partir et on le sait. Et puis en l'occurrence parce qu'on les a hérités aussi de la guerre civile. Mais là où éventuellement la bonne nouvelle s'arrête et commence les difficultés, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le comment. Et effectivement, il y a un vrai débat, là, il y a un vrai travail à faire.
Comment on reconstruit,
comment on réforme, et surtout comment on va dégager cette classe politique au pouvoir. On a un certain nombre d'obstacles. Donc on a vu d'ailleurs à travers l'évolution de la protestation entre octobre et disons janvier et février, au moment de l'essoufflement du mouvement, avant le Covid d'ailleurs, parce qu'on a un peu tendance à un peu mettre ça sur le dos du Covid. C'est le Covid qui a stoppé les choses. Maintenant que le Covid, d'ailleurs on a eu un espoir, du moment que le confinement est terminé, la protestation va reprendre. Non, c'était un petit peu rapide comme analyse, parce qu'en fait, il y a eu quand même des choses profondes qui ont déstabilisé le mouvement, qui ont provoqué des failles et au final, qui ont fait avorter un certain nombre de choses, malheureusement. Il y a eu effectivement une classe politique qui s'est accrochée, d'abord, qui s'est dit, c'est simple, on les aura à l'usure. Ils ont fait un choix qui n'est pas complètement incohérent compte tenu de leur profil, puisqu'on a tendance aussi à l'oublier, mais pour une grande partie d'entre eux, ce sont des anciens chefs de guerre, chefs de milice. Donc j'ai envie de dire, ils en ont vu des plus costauds que juste des jeunes qui gueulent sous leurs fenêtres. Ils en font un peu plus pour les déstabiliser. Et puis, il y a aussi, donc, au sein de la protestation elle-même, c'est-à-dire que autant, encore une fois, on était d'accord sur ce qu'on refusait, on a eu vraiment du mal à penser l'action, on a eu du mal à se coordonner. Et puis, il y a eu ensuite les vieux démons politiques, les vieilles grilles de lecture politique qui se sont invités, qui se sont calqués sur le mouvement, qui se sont ajoutés au mouvement et qui ont finalement parasité cette nouvelle lecture en fait de ce que devrait être l'action politique libanaise par le bas, on va dire, bottom up, et on est revenu aux vieilles querelles, etc., ce qui en a refroidi certains. Et puis là, les leaders au pouvoir se sont dit, ça y est, on peut reprendre les vieilles rengaines communautaires, chacun va s'adresser à sa communauté, bon, et on va démembrer la chose. Donc on a eu par exemple le secrétaire général du Hezbollah qui, en une après-midi, au cours d'un discours, dit, bon, bah, allez hop, les chiites, fini la récréation, vous rentrez chez vous. Et effectivement, hop, une demi-heure après, c'était fait. Donc là, l'élément chiite de la protestation s'est retiré.
Donc la protestation qui jusqu'à présent allait au-delà des clivages confessionnels
ou communautaires.
En tout cas, disons
que c'était des credos sur lesquels se retrouvaient toutes les communautés, pouvaient se retrouver toutes les communautés. Ça ne veut pas dire après qu'elles travaillaient ensemble. Côté druze, ben Wali Jumlat a jamais vraiment investi. Côté chrétien, c'était divisé. Et puis finalement, vu que donc le transconfessionnel n'a pas réussi à proposer quelque chose une alternative assez vite et assez bien organisée, ça a découragé pas mal de gens. Est arrivée ensuite aussi la crise bancaire. Et là, on s'est dit, il faut choisir. C'est soit la réforme politique d'abord, soit l'économie d'abord.
Voilà pourquoi les représentants de la société civile dont vous étiez, Karim Bitar, jeudi, à la résidence des Pins à Beyrouth pour rencontrer Emmanuel Macron. Vous lui avez, comme d'autres, parlé. Vous lui avez dit qu'il n'était plus possible de légitimer le système politique au pouvoir. Et vous avez demandé une gestion transparente de l'aide internationale. Qu'est-ce que ça veut dire que les organisations de la société civile doivent être celles qui distribuent l'aide internationale? Ça s'organise comment?
Oui, cela concerne l'aide d'urgence suite à la catastrophe, mais ce qui est plus important que cela, c'est l'aide internationale liée aux conférences, à la conférence CEDRE et au FMI. Ce qui est le plus important, c'est la conditionnalité de l'aide, les milliards de dollars qui doivent être débloqués, parce que pendant des années, la communauté internationale a lancé des bouées de sauvetage à cette classe politique en organisant des conférences internationales comme Paris 1, Paris 2, Paris 3. C'était lié à la relation personnelle qui existait entre Jacques Chirac et l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Et cela avait continué, avait permis à cette classe politique de continuer à se maintenir à flot. Donc aujourd'hui, et la France en avait pris conscience il y a près de 2 ans, ce qui était nécessaire, c'est de conditionner, de rendre cette aide conditionnelle, de la rendre conditionnelle à l'adoption de réformes sectorielles et systémiques pour que si le Liban, pour faire en sorte que si la classe politique ne met pas en place un changement véritablement structurel très important, cette aide ne puisse plus être débloquée. Et ça a été le cas, et le président Macron a rassuré, il a même fait des discours disant, il a parlé de régime et non pas uniquement de système, et il a dit que pas un sou n'irait à la corruption. Donc il a tenu un discours assez ferme et il nous a rassuré sur ce point. Pour l'aide d'urgence, en effet, cela va passer par des ONG, cela se fera de façon très transparente. Mais le plus important, c'est surtout les grosses sommes, et on parlait de 11 milliards qui devaient être débloqués pour le Liban. Ces sommes-là doivent être conditionnées à une aide, véritablement à une refonte du système politique tout entier. Autrement, ça reviendrait à, encore une fois, lancer une bouée de sauvetage à une classe politique qui s'en servira des fins clientélistes, et cela ne servira pas du tout à la population libanaise.
Parce qu'il y a deux choses. Il y a les conditions politiques, en effet, de réformer la classe politique. Il y a aussi les conditions économiques que que pose jusqu'à présent le Fonds monétaire international pour attribuer des aides, que ce soit la baisse des dépenses publiques, le licenciement des fonctionnaires, des privatisations, une remise à plat du système judiciaire, jusqu'où on peut aller, Aurélie Daher, sans prêter le flanc aux accusations d'ingérence.
Ça, c'est une vraie question. Et en l'occurrence... Bon, effectivement, il faut effectivement faire la différence entre deux choses. Il y a deux besoins économiques qui s'imposent au Liban, le besoin de l'urgence, et puis il y a effectivement la question de la réforme des pratiques budgétaires de la classe pouvoir, et qui est directement liée, bien sûr, à l'identité même des gens qui sont au pouvoir. Ce qui est un peu inquiétant actuellement, c'est que parce qu'on veut absolument parler des deux en même temps, il y a des espèces d'amalgames qui sont faites, et il y a un parasitage, notamment là actuellement dans les processus de mobilisation à l'international de l'aide, donc pour de l'aide d'urgence. On a un peu tendance à faire un amalgame, et malheureusement on refroidit certains enthousiasmes. Moi je l'ai bien senti, parce que j'ai déjà été prise à partie dans certaines discussions, des gens qui voudraient aider et qui disent finalement, ah oui mais attends, si c'est corrompu, si etc. Moi j'en vois rien. Là hier, bon effectivement il y a eu la visite de Monsieur Macron, il a été très clair là-dessus. En même temps, pareil du côté libanais, je pense qu'il y a un peu de cafouillage dans ce qu'on attend de la France, c'est-à-dire que tout le monde n'attend pas la même chose. Il y en a qui ont bien compris que la France ne ferait que de la coordination de l'aide internationale, n'allait pas mettre de sa propre poche des milliards. Il y en a qui ont bien compris que la France elle-même avait ses propres soucis économiques, notamment liés au Covid, on va vers une deuxième vague. Et puis, il y en a d'autres qui attendent de la France carrément une prise en charge, un peu comme si le Liban était un département français, etc.
Et, oui, il y a carrément une sorte de pétition signée pour que...
Alors effectivement, il y a eu une pétition qui a été présentée sur Havas demandant la remise du Liban sous mandat français pendant 10 ans.
Mais ça représente quoi en termes de signatures
Ce matin, il y avait 75 000 signatures à peu près. Bon, c'est pas...
Oui, et puis on ne sait pas si c'est des Libanais ou...
Oui, on ne sait pas aussi, c'est des espèces de signatures aussi coup de gueule, et puis bon, à froid. Voilà, de toute façon, c'est un projet tout à fait surréaliste et impensable. C'est absolument pas possible au regard du droit international, là, sans parler du fait qu'on pourrait peut-être déjà demander à la France si elle a envie de d'annexer le Liban pour 10 ans. Donc, il y a eu, je pense, ça s'est vu au moment de la visite de M. Macron, et notamment, ça a été très clair au moment des questions avec la presse libanaise. Il y a eu un moment, c'était vraiment le choc des malentendus. C'est-à-dire que M. Macron est arrivé en se disant « je vais trouver des gens protestataires » ou en tout cas « je vais aller à la rencontre d'une population qui sait ce qu'elle veut, qui est claire, etc. » Puis finalement, au moment des questions, il s'est rendu compte qu'on attendait de lui beaucoup trop de choses, qu'on lui ait même carrément demandé de se positionner sur des questions libano-libanaises qui n'ont rien à voir avec la choucroute actuelle. Donc là, effectivement, il a bien martelé que il était là pour faire, je reprends ces mots, de l'assistance, mais non de l'ingérence. Je suis pas sûre que tout le monde a compris en face. Mmh. Et il y en a même qui se sont braqués, c'est-à-dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu viens faire là ? Donc, et ce matin, on avait des nouvelles un peu ennuyeuses, à savoir que visiblement, le ministère des Affaires étrangères français aurait demandé à certaines ONG explicitement, certaines ONG françaises carrément, de ne pas aller, d'arrêter leur programme alors qu'elles étaient en train de se préparer pour partir, de ne pas y aller, de ne pas aller au Liban.
Pourquoi ?
Et justement, dans le doute que éventuellement, l'argent n'irait pas au bon endroit. De son côté, le gouvernement libanais, du coup, a répondu eh bien, puisque c'est comme ça, on va dire à d'autres ONG françaises de ne pas se déplacer, on fera sans vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a une espèce de cafouillage qui fait qu'on est en train de saboter des choses, on est en train, des espèces aussi, alors entre guerre d'égo, etc., on est en train de pénaliser des personnes qui ont besoin d'aide maintenant, tout de suite. J'ai envie de dire, on réglera nos comptes après, mais là, dans l'extrême urgence, il faudrait mettre qui de l'eau dans son vin et l'autre de l'eau dans son jus d'orange.
Alors que peut faire la France, Karim Bitar ? Est-ce qu'elle peut, à minima, jouer le rôle de leveuse de fonds auprès notamment des pays de la région ou au-delà ? Parce que les États-Unis, par exemple, qui font pression sur le système bancaire depuis des années par peur d'alimenter les comptes du Hezbollah ou les militaires syriens. Voilà, est-ce que la France peut au moins avoir ce rôle-là d'aller convaincre ? Et qui ? D'ailleurs, qui doit-elle convaincre ? Est-ce que la communauté internationale, comme on dit, s'intéresse toujours au Liban ? dont elle a longtemps craint qu'il entraîne toute la région dans la crise et qui est peut-être moins aujourd'hui un sujet de préoccupation depuis que Bachar al-Assad a repris le pouvoir ou presque en Syrie.
Je pense que la France a un rôle décisif à jouer au Liban. Autant je suis extrêmement critique envers la politique extérieure de la France en Libye, par exemple, en ce moment, autant je pense sincèrement que la France joue un rôle positif au Liban. Elle a, par exemple, aujourd'hui, d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite, qu'elle pourrait mettre à profit. Et au même moment, la France maintient au Liban des relations cordiales avec le Hezbollah, par exemple, contrairement aux États-Unis, qui ont mis le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Le président Macron a rencontré un député du Hezbollah avec les autres membres de la classe politique. Il a même eu un aparté avec lui. Donc la France pourrait mettre à profit ses relations avec les deux parties, les deux axes régionaux qui s'affrontent au Liban, l'axe saoudien et l'axe iranien, pour permettre quelque peu une détente dont le Liban a désespérément besoin pour ne pas qu'il fasse les frais de cette guerre des axes, pour encourager l'Arabie saoudite à mettre un peu la main à la poche, parce que l'Arabie saoudite et les autres monarchies pétrolières du Golfe sont réticentes à aider le Liban depuis quelques années en raison du rôle prédominant que joue le Hezbollah sur la scène intérieure libanaise, et en même temps le fait qu'elle maintienne ce contact avec le Hezbollah rassure quelque peu ce dernier, qui ne considère pas la France comme une puissance hostile contrairement aux États-Unis. Donc la France peut jouer le rôle de go-between en quelque sorte, le rôle d'intercesseur. Personne ne la considère au Liban comme un ennemi. La visite du président Macron a été relativement bien accueillie par la quasi-totalité de l'opinion publique libanaise, même s'il y a eu quelques articles,
bien évidemment, qui étaient plus critiques,
de néocolonialisme. C'est un peu le pendant de ces quelques excités qui ont appelé au retour du mandat français. Il y a quelques extrémistes des deux bords, mais globalement, la visite a été bien accueillie. Monsieur Macron est plus populaire au Liban qu'en France, donc ce qui est un peu ironique, mais c'est que quelque peu naturel. Il y a un tel discrédit de la classe politique libanaise qui est tellement démonétisé que Monsieur Macron est perçu un peu comme un sauveur, mais cela est un peu exagéré, bien évidemment. Mais en tout cas, la France peut jouer un rôle, comme vous l'avez dit également, pour rassembler les bailleurs de fonds. La France avait organisé la conférence Cèdre pour aider le Liban. Aujourd'hui, le processus est mené par le FMI. La France peut également aider à rapprocher les points de vue donc entre les puissances régionales, à mobiliser la communauté européenne, les États-Unis, les puissances du Golfe. Et elle a toujours des relations relativement correctes avec les Iraniens. Donc elle est la seule puissance internationale à pouvoir faire cela au moment où les États-Unis mènent une politique de pression maximale contre Téhéran qui est extrêmement contre-productive et qui a affecté toute l'économie libanaise plutôt que d'affecter le Hezbollah, ce qu'elle souhaitait faire.
Tout comme les sanctions que les États-Unis
ont pris contre libanaises.
Oui.
Absolument.
D'ailleurs, c'est intéressant, Karim Bitar, vous parlez de l'Arabie Saoudite et vous dites qu'il faut aller solliciter l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Ce serait une évidence. Après tout, les puissances régionales comme l'Arabie Saoudite, elles ont plutôt tendance à instrumentaliser le soutien aux pays qu'elles aident pour servir leurs propres intérêts. Pourquoi l'Arabie Saoudite nécessairement, Aurélie Daher?
Déjà parce qu'on va chercher l'argent où il y en a.
Je n'appelais certainement pas une intervention politique de l'Arabie Saoudite.
Non, pas politique, financière.
On ne l'a pas compris comme financière. On ne l'a pas compris comme ça, Karim, rassure-toi.
Oui. mais historiquement, l'Arabie Saoudite a soutenu financièrement le Liban dans des périodes de crise.
Après 2006.
À l'époque des différentes conférences internationales des bailleurs de fonds, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les puissances du Golfe, les Émirats Arabes Unis faisaient partie de ceux qui mettaient la main à la poche lorsque la France les sollicitait. Et là, depuis quelques années, elles sont tout à fait réticentes à débloquer le moindre dollar en raison de la présence du Hezbollah. Donc ce que le président Macron a promis, semble-t-il, à la classe politique libanaise, c'est que si elle mettait en place quelques réformes, lui s'engageait à convaincre aussi bien les Iraniens que les puissances arabes du Golfe à réinvestir la scène libanaise pour que le Liban ne soit plus soumis à cette sorte de blocus qui ne dit pas son nom, pour que le Liban redevienne une sorte de hub économique et qu'il puisse reprendre un peu du poil de la bête, qu'il ne soit plus à terre, à genoux économiquement.
Aurélie Daher, l'Arabie Saoudite, elle avait été un allié généreux avec le Liban après la guerre de 2006 contre Israël. L'Iran aussi avait participé à la reconstruction de l'après-guerre de 2006. Est-ce que c'était pas une coopération, mais est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui que l'Arabie Saoudite aide si l'Iran est toujours là?
L'Arabie Saoudite, elle a aidé le Liban bien avant 2006, puisque en l'occurrence déjà, donc c'est elle qui met la main à la pâte au moment où il faut penser l'accord de Taif qui va mettre fin à la guerre civile, donc déjà en 90. Avec en l'occurrence les Américains et les Algériens. Et ensuite, effectivement, donc celle qui va mettre en selle, en l'occurrence Rafik Hariri, donc ami personnel du roi Fahd, ami effectivement personnel de Jacques Chirac, très bien vu des Américains, et c'est elle qui va l'imposer à la puissance qui a la main haute sur les affaires du Liban à l'époque, en l'occurrence la Syrie, qui elle, Hariri a priori, elle le trouve absolument pas enthousiasmant. Donc et à travers effectivement Rafik Hariri, la confiance des instances internationale que M. Hariri va obtenir, ben, elle va mettre énormément d'argent dans le processus de reconstruction. Puis, effectivement, après 2006, alors déjà pendant la guerre, elle commence par placer immédiatement, pendant les bombardements, 50 millions de dollars à la Banque centrale pour empêcher l'effondrement de la livre libanaise. Après la guerre, elle investit 500 millions dans la reconstruction, mais tout ça, ça passe plus, on va dire, par les canaux de l'État. C'est-à-dire que l'État à l'époque, enfin le gouvernement libanais à l'époque, sous le mandat de, enfin, c'était à l'époque c'était Monsieur Signora, Fouad Signora, qui était Premier ministre, donc on va dire les milieux Hariri fils, donc avait prévu un plan de partage, on va dire, en différents chantiers de toutes les zones qui étaient à reconstruire. L'Arabie Saoudite a généreusement participé. L'Iran aussi, mais l'Iran par contre à un niveau beaucoup plus faible. Le gouvernement a tout fait pour que l'Iran ne participe pas. Et au final, des mois après que toutes les autres puissances étaient déjà engagées sur le terrain, elle va lui donner des portions de route. Alors après, évidemment, l'Iran passera par le Hezbollah pour aider à reconstruire, mais via cette fois-ci les caisses du Hezbollah.
Aurélie Daher, vous qui travaillez spécifiquement sur le Hezbollah, aujourd'hui le Hezbollah, il appelle les autorités libanaises, et ça fait déjà un petit moment qu'il le fait, à regarder plutôt du côté de la Chine. Pourquoi le Hezbollah et la Chine? Qu'est-ce que la Chine a à promettre au Liban aujourd'hui?
Disons que je pense la manière dont résonne le Hezbollah. Après, moi, je suis pas au conseil politique. Disons que la manière dont le Hezbollah voit les choses, c'est bon. Évidemment, il préférait qu'on n'aille pas chercher de l'argent du Golfe parce que il ne voudrait pas que revienne une Arabie Saoudite particulièrement anti-chiite ou anti-iranienne, l'avoir mettre son nez dans les affaires internes libanaises. Bon, côté iranien, ils savent que c'est compliqué, que d'un point de vue d'image à l'international, ce serait difficile que la communauté internationale donne son blanc-seing à une intervention massive de l'Iran, idem aussi, hein, pour les mêmes raisons, dans l'économie libanaise. Donc il faut trouver une autre puissance qui serait à peu près neutre, en tout cas par rapport aux grandes fractures régionales qui se répercutent au Liban, et qui a de l'argent, et qui en plus ne peut difficilement être accusé d'accointance avec les États-Unis, puisque comme on sait, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas toujours au beau fixe. Donc pourquoi pas la Chine?
Karim Émile Bitar, est-ce que cela permettrait de résoudre quelque chose qui est considéré comme un problème du Liban, qui est de toujours être impliqué dans la politique des axes régionaux, de subir leurs ingérences extérieures? Ce serait de choisir un allié entre guillemets neutre, et cette neutralité, elle est prônée aujourd'hui par certaines personnalités libanaises. Je pense au cardinal Béchar Arraï, dont le journal La Croix s'était fait l'écho. Il a lancé cette idée, cette proposition. Le Liban doit être neutre pour retrouver la maîtrise de son destin et le soutien de la communauté internationale.
Alors, cette neutralité est une sorte de serpent de mer qui revient toutes les quelques années dans la politique libanaise depuis son indépendance. Ça a toujours été une demande de vastes franges de l'opinion publique libanaise, sans que nous ne parvenions jamais ni à la définir, ni encore moins à la réaliser. Aujourd'hui, certains nous demandent de regarder vers l'Est, vers la Chine, et de se distancier des axes régionaux. En effet, la distanciation est quelque chose d'absolument absolument nécessaire d'éviter de se laisser instrumentaliser par telle ou telle puissance régionale. Mais la priorité aujourd'hui, à mon sens, c'est la crise économique et sociale. Et cette ouverture dont on nous parle, cette ouverture vers l'Est, ça pourrait tout à fait faire sens à moyen terme. La diversification de l'économie libanaise, d'ailleurs la Chine est déjà un partenaire commercial important, mais la priorité absolue aujourd'hui, c'est l'injection dans l'immédiat de devises étrangères en dollars, et cela ne peut malheureusement que passer par le Fonds monétaire international. Et ce qui est absolument paradoxal, c'est que dans n'importe quel autre pays au monde, une intervention du FMI est perçue très négativement par l'opinion publique. Ça signifie qu'il faut se serrer la ceinture, des politiques d'austérité, etc.
Au Liban,
alors
non.
Qu'au Liban, c'est uniquement l'association des banques du Liban, les intérêts financiers, qui cherchent à faire capoter cette intervention du FMI, car le FMI devient, et c'est une ironie de l'histoire, devient un peu le défenseur, l'ultime défenseur d'un minimum de justice sociale, d'un minimum de transparence, car il cherche un peu à mettre le nez dans les comptes de la Banque du Liban, dans les comptes de ses banques privées, et elle ne souhaite absolument pas contribuer un tant soit peu à l'instauration d'une justice sociale minimale. Donc c'est l'ultime paradoxe libanais où on voit le FMI, temple du néolibéralisme autrefois, devenir le défenseur de la veuve et de l'orphelin. On voit jusqu'à quel point tout s'inverse quand il s'agit du Liban. Donc c'est un peu les intérêts privés qui ont fait à ce stade capoter les négociations avec le FMI. Mais dans l'absolu, il est certain que le Liban doit rééquilibrer ses relations internationales.
Même le Hezbollah, pardon, s'est résolu à demander une aide du FMI.
Tout à fait, tout à fait.
Reconstruire le Liban avec qui, se demandait-on, et puisque vous amenez la discussion sur le terrain économique et social, en 2006, après la guerre, les promoteurs immobiliers avaient été de ceux qui avaient été sollicités pour reconstruire le Liban. L'État libanais avait octroyé notamment à une compagnie privée la rénovation des quartiers de Beyrouth. Est-ce que l'État libanais peut envisager à nouveau de demander à cette société libanaise pour le développement et la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, Solidaire, qui a d'ailleurs fait pas mal de dégâts et surtout sur la cohésion sociale dans la capitale, Aurélie Daher, est-ce qu'il sera question sur la reconstruction simplement de demander à nouveau à des privés de remplir cette mission publique, de service public?
Mais c'est surtout que c'est extrêmement dangereux, entre guillemets, avec un gros risque de contre-productivité, dans le sens où, si en l'occurrence on veut reparler de Solidaire, Solidaire était en l'occurrence la boîte de BTP de Monsieur Hariri. Et c'est aussi à travers justement ces boîtes privées que se passe une grande partie des détournements de fonds publics. Puisque en l'occurrence, au moment où on va vouloir reconstruire, on va faire évidemment, il va falloir faire des appels d'offres, hein, marché public, et évidemment ce sera le gouvernement, d'ailleurs la plupart des ministres ont tous du coup leur boîte de BTP, et on va se faire passer les marchés sur facture. Bien évidemment, les uns aux autres.
C'est un peu ce qu'on craint aujourd'hui.
Donc ce serait retour à la case départ. Là, on refait ce qu'on a fait, ce qui nous a amené très exactement au blocage économique qu'on a aujourd'hui.
Karim Emile Bitar, est-ce que les habitants pourraient être expropriés à nouveau, par exemple, dans les quartiers à proximité du port, que les promoteurs immobiliers surveillent depuis très longtemps?
Ce serait très très mal perçu par l'opinion publique libanaise, ce Conseil du développement et de la reconstruction qui avait été mis en place après la guerre est devenu une sorte d'empire de la corruption, avec des marchés passés de gré à gré, sans appel d'offres. Quelques entreprises se sont arrogées des monopoles, ont obtenu l'essentiel des contrats les plus juteux. Donc aujourd'hui, tout cela est à revoir. Le contrat social et les principaux contrats économiques sont entièrement à être repensé, et il n'est plus pensable de repartir sur les mêmes bases. Cela provoquerait un nouveau sursaut et donnerait un nouvel élan à cette révolution libanaise. Solidaire est devenu un symbole de ce qu'il ne faut pas reproduire. Donc je ne pense pas qu'ils auraient le culot de repartir sur ces mêmes bases.
Reconstruire le Liban avec qui? La diaspora libanaise, Aurélie Daher?
Oui, effectivement, ça c'est l'éléphant dans la pièce dont on n'a pas encore parlé, qui est en fait, ce qui serait
idéalement un moyen de faire affluer vers le pays de l'argent et de l'argent en monnaie, entre autres en monnaie forte, et puis sans couleur politique et sans conditions politiques.
Après, mais est-ce que la crise politique et économique a déjà eu un effet sur les transferts de fonds? C'est-à-dire, est-ce que les familles arrêtent de verser de l'argent?
Alors, moi au contraire, hein, de ce que j'ai pu observer, parce qu'évidemment on n'a pas de chiffres clairs, et certainement pas là à court terme, mais de ce que j'ai pu observer, ce que je sais, etc., depuis le mois d'octobre, tous les compatriotes que je connais en France, dans le Golfe et aux États-Unis, au contraire, ont doublé, triplé ce qu'ils envoyaient habituellement à leur famille. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que malheureusement, suite à ce qui s'est passé, on va avoir très certainement une nouvelle vague d'émigration de jeunes cas, de cerveaux, de personnes pourvu qu'elles aient un diplôme monnayable à l'étranger et puis qu'elle parle correctement le français et l'anglais, tout le monde va partir. Alors oui, c'est mauvais pour l'économie locale parce que on perd de jeunes talents, on perd une force active. Et en même temps, c'est aussi un moyen de grossir l'origine, on va dire, de rentrer à travers la diaspora.
Karim Émile Bitar, pour conclure, une conférence d'aide internationale pour le Liban doit se tenir demain en visioconférence à l'initiative notamment de la France, et vous en attendez quoi ?
Alors, il s'agit essentiellement de transformer la conférence CEDRE qui s'était tenue à Paris il y a 2 ans en quelque chose d'encore plus ambitieux suite à cette explosion qui va coûter encore des sommes faramineuses à l'économie libanaise.
Parce que je rappelle je rappelle que cette conférence CEDRE, elle avait promis 9,5 milliards de dollars au Liban sous réserve d'un accord avec le FMI, mais que cette semaine n'a jamais été débloqué.
Ouais. C'est ça. Le grand souci, c'est que l'argent que la diaspora pourrait mobiliser, et qui s'élevait en effet chaque année, la diaspora envoyait entre 8 et 9 milliards avant 2019, aujourd'hui ne peut plus venir parce que tout simplement les banques libanaises ont gelé les dépôts. Les déposants n'ont plus accès à leurs propres comptes. Donc aujourd'hui, il faut utiliser le système D pour faire parvenir des sommes au Liban, et la diaspora est réticente à envoyer des fonds. Il faut utiliser les sociétés privées pour faire parvenir, et on n'est même pas sûr que cela parvienne entre de bonnes mains. Donc il faut espérer que cette conférence pourra inciter le système bancaire libanais à se restructurer, inciter les bailleurs de fonds à de nouveau se mobiliser, et surtout inciter la classe politique libanaise à véritablement se repenser, mettre en place ce nouveau pacte national dont Monsieur Macron a parlé à Beyrouth, et repartir sur de nouvelles bases, mais véritablement enclencher cette transition politique qui est véritablement devenue indispensable et sans laquelle rien ne peut se faire, car l'essentiel est une crise de confiance, et tant que cette confiance n'aura pas été rétablie, rien ne pourra se faire. La classe politique est entièrement démonétisée, et sans nouvelle classe politique et sans nouvelles institutions, le Liban ne sera pas sorti de l'auberge.
C'est la conclusion de ce collectif de citoyens libanais qui signe cette tribune dans la presse libanaise aujourd'hui et qui se termine par: nous disons à tous, si vous n'êtes pas capable de vous unir, vous n'êtes pas digne de nous représenter. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous dans le magazine du week-end. Karim Émile Bitar, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut des sciences politiques de l'USJ, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et merci à vous, Aurélie Daher, d'avoir été avec nous, enseignante-chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris. Votre livre, Le Hezbollah, est toujours disponible aux presses universitaires de France. Merci. Dans quelques minutes, la seconde partie du magazine du week-end. ما في شي حزين ما تكون حزين لمين ميدو ملايين بكرة بيخلق مليونين لوين ما في شي حزين ما تنتف شعراتك خليك ادمين ما تطلع وراك بكرة جاي دورك
Magazine du week-end, Julie Gacon.
C'était Erzan du groupe libanais Soap Kills. Vous écoutez France Culture, il est 13h22 et c'est la deuxième partie du magazine du week-end. Ce que nous vivons n'est pas une guerre mais une crise du soin, écrivait pendant le confinement la romancière espagnole Laura Freixas sur le site de France Culture au cours de la grande conversation mondiale lancée par Emmanuel Laurentin et l'équipe du Temps du Débat. La crise du coronavirus, écrivait-elle, ébranle le care. Nous avons plus que jamais besoin de soins et en particulier de celles qui le donne. Pourtant, la crise exacerbe les vulnérabilités des moins protégés par le droit du travail, des employés à temps partiel aux employés de maison. La prime de 1000 euros annoncée cette semaine par le gouvernement pour les aides au domicile suffit-elle à cette reconnaissance sociale que notre société se doit à celles et ceux qui prennent soin d'André et de Madeleine par exemple?
Vous êtes quand même isolé là-bas, hein. Tout ça fait quand même...
C'est à 2,5 km de Prémoulin. Pour moi, ça fait loin, parce que je marche pas bien. Il faut un déambulateur. On trouve le temps, hein, quand c'est comme ça. Hein. Moi, je vois quand même la dame qui vient me faire ma toilette le matin. Et puis, ma femme de ménage. Le lundi, mercredi, vendredi. Quand mon mari est décédé, il me l'avait mis tous les jours. Mais tous les jours, ça me fait trop cher. Hein.
Oui, c'est cher.
Ouf, 20,40 € une demi-heure.
Combien?
20,40 € pour une demi-heure.
Vous aimez bien quand on vient vous faire la toilette parce que vous discutez le coup?
On discute un petit peu, quoi. Ben, ça fait toujours une demi-heure de passer. Hein. Puis après, hop, je suis comme ça, tout le temps. Alors, je dis, va donc te coucher, ma peau.
C'est pas bon.
Pourquoi c'est pas bon, madame?
Parce que plus vous allez vous coucher, plus ça, vous allez y aller.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que j'y vais beaucoup plus qu'avant.
Eh bien, voyez.
Extrait de la série documentaire Solitude au pluriel par Pauline Mocor et Véronique Samouilov. Bonjour Alizée Delpierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes docteur en sociologie, diplômée du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris. Et nous sommes en ligne depuis Grenoble, je crois, avec Emmanuel Puissant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en économie à Grenoble et chercheur chercheuse au CREG, qui est le centre de recherche sur l'économie de Grenoble. Merci à vous d'être avec nous. Quand on parle de 320 000 aides à domicile en France, Emmanuel Puissant, on parle de qui? Parce que par ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui a parlé de 320 000 et vous évoquez dans une tribune récente avec l'économiste François-Xavier Devetter 600 000 emplois d'aides à domicile. Donc de qui parle-t-on?
Alors, c'est déjà une excellente question parce que on parle beaucoup d'aide à domicile et en fait, un des premiers problèmes auxquels on est confronté quand on travaille sur ce sujet-là, c'est les compter. Parce que on pourra y revenir, mais tout l'outillage statistique qu'on a, est issu vraiment des emplois dits industriels masculins dans des entreprises dans des entreprises collectives. Et donc, les aides à domicile, on a beaucoup de mal déjà à les compter. Donc, effectivement, selon qui on compte, par exemple, si on prend une personne qui intervient chez une bénéficiaire qui a 60 ans, elle va se dire qu'elle intervient d'abord en tant qu'employée de maison pour de l'aide au ménage et cette salariée va rester chez cette même bénéficiaire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et de manière très naturelle, entre guillemets, elle va se retrouver aide à domicile, parfois même sans elle en avoir vraiment conscience. Donc en fait, on est vraiment à la porosité entre des emplois domestiques, des emplois du care, des emplois du soin, on y reviendra également, je pense. Mais donc la première manière de compter est déjà très compliquée. Donc effectivement, avec plusieurs collègues avec qui on travaille, sur la base des travaux de l'enquête emploi de l'INSEE et des enquêtes de l'adresse, on établit, nous, 600 000 aides à domicile, dont 150 000 qui sont directement employées par les personnes chez qui elles interviennent.
Voilà, parce que ce n'est pas le cas de toutes. Certaines travaillent aussi dans des structures ou des associations. Elles ne sont ni infirmières, ni aides-soignantes. Et ce qui est sûr, Alizé Delpierre, c'est que c'est une profession qui est presque exclusivement féminine.
Oui, tout à fait. Oui, la profession d'aide à domicile et de façon générale, en fait, ce que la France appelle les services à la personne, donc qui sont des services en fait fournis au domicile des gens, que ce soit des services de ménage, de soins aux personnes âgées, voire de garde d'enfants, de jardinage, etc., sont très féminisés en fait, hein, essentiellement féminins. Et concernant les aides à domicile, hein, c'est en fait 98% de femmes en fait, hein, dans ce métier-là. Donc c'est très important. C'est une variable qui est essentiel et qui n'est pas sans conséquence aussi sur, puisque je sais qu'on va un petit peu en parler, sur les enjeux de valorisation aussi de ce travail.
De ces professions. D'abord, avant d'évoquer ce sujet-là, une question. On parle toujours aujourd'hui de ce qu'on appelle aujourd'hui EHPAD. On appelait ça maison de retraite il n'y a pas si longtemps, mais bon, maintenant on dit tous EHPAD, en oubliant peut-être que toutes les personnes âgées ne passent pas leurs dernières années dans ces établissements. Est-ce qu'on a une idée, Emmanuel Puissant, de la part à peu près de personnes âgées qui passent du temps leurs dernières années dans ces structures et de celles qui restent à domicile et donc en recevant la visite régulière de ces aides à domicile?
Alors, en fait, la part de ces personnes âgées, la difficulté, c'est de savoir encore une fois de qui on parle effectivement, puisque on a l'habitude un petit peu d'essayer de comptabiliser ces flux par les EHPAD ou par le domicile à travers l'allocation personnalisée d'autonomie et donc qui est gérée par les départements. Et on y reviendra aussi.
Ne disons pas toujours qu'on y reviendra. Allez-y, vous pouvez y aller.
Ah bon. Alors voilà. Donc très bien. Donc j'y vais. La grande difficulté, c'est aussi ce que montre cette prime Covid, la grande difficulté de toutes ces questions-là, du prendre soin des personnes âgées, c'est notamment les énormes inégalités territoriales qu'on a. Et donc typiquement, on voit qu'il y a des configurations territoriales très fortes dans la part en EHPAD et à domicile, dans aussi la part par rapport à cette aide à domicile-là du nombre de particuliers employeurs et du nombre d'associations ou de services publics. Et en fait, tout ça, c'est pas du tout anodin parce que ça a des répercussions très importantes en termes de qualité du service et en termes de qualité des emplois, en termes de rémunération. Et donc, on sait très bien qu'il y a des départements dans lesquels le particulier employeur, notamment, est majoritaire, donc dans lequel le temps de travail des salariés est très faible. Et donc, on sait très bien que ces salariés-là n'auront jamais les 1 000 euros, puisque quand même, rappelons-le, ces 1 000 euros de prime dite Covid, c'est sur la base d'un temps plein.
Et dans quel département, vous dites, il y a des départements où les particuliers employeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, donc les particuliers qui font appel à une aide à domicile sont majoritaires et donc les inégalités territoriales seront creusées. Mais par exemple, si on devait avoir une idée géographique de cette répartition?
Alors, par exemple, on sait que dans les grandes métropoles, il y a, donc je pense par exemple à Lyon, donc le département du Rhône, on a une part importante de particuliers employeurs et d'entreprises dites lucratives. À l'inverse, dans les Landes, par exemple, on sait que la majorité des emplois sont des emplois publics.
Parce que cette prime Covid qui a été annoncée en début de semaine, donc elle est de 1 000 euros, mais ce sont les départements qui vont la verser. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Alors, sur le versement.
Alors, de ce qu'a dit Emmanuel Macron, le financement est moitié État, moitié département, et la certitude, c'est que c'est au département d'organiser le versement de cette prime, puisque ce sont vraiment les départements qui sont chefs de file en termes de prise en charge de la perte d'autonomie. Donc oui, et donc effectivement, en fonction des départements, il y a déjà plusieurs départements, notamment ruraux, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'ils allaient être en difficulté pour mettre en œuvre cette décision-là, puisque notamment dans les départements ruraux, une heure ou une demi-heure, hein, la personne parlait d'une demi-heure tout à l'heure dans l'extrait du reportage, une heure ou une demi-heure d'intervention va coûter beaucoup plus cher si le temps des déplacements entre différentes interventions sont longs. Et en général, dans les départements ruraux, ces temps-là sont beaucoup plus longs.
Lot-et-Garonne, par exemple, a calculé que ça lui coûterait plus de 3 millions d'euros, alors que d'autres départements n'avaient pas attendu cette annonce de prime Covid de 1 000 euros pour les aides à domicile à temps plein pour rétribuer mieux qu'ailleurs ces professions comme la Mayenne ou la Meurthe-et-Moselle. Alizée Delpierre, vous qui êtes en contact pour vos travaux de recherche sociologique avec ces aides à domicile, celles que vous suivez, que vous ont-elles raconté de cette période de confinement? Est-ce que toutes ont travaillé? Est-ce qu'elles ont pu le faire? Est-ce qu'elles voulaient le faire? Est-ce qu'elles l'ont fait dans de bonnes conditions?
Oui, alors c'est sûr que la période de confinement a été très bouleversée pour toutes les professions et beaucoup pour ces aides à domicile, puisqu'elles travaillent en fait en contact direct, hein, pour le coup, avec des personnes, et lorsqu'elles travaillent avec des personnes âgées, des personnes à risque en fait. Hein, donc il y avait un enjeu d'autant plus fort pour les aides à domicile travaillant auprès de personnes âgées. Alors en fait, il y a eu différentes situations. Certaines ont continué à travailler, en fait, hein, même à davantage travailler, parce qu'en fait, certaines familles ont eu un besoin en fait accru en fait de travailleuses pour s'occuper de leurs parents âgés qu'eux-mêmes ne pouvaient pas aller visiter à cause des restrictions aussi de déplacement ou du risque de contamination, etc. Donc il y a eu certaines aides à domicile qui se sont vues, enfin parmi celles que j'ai rencontrées, proposer en fait de travailler un peu plus. Et alors là, leur réponse était également clivée. Donc certaines en ont profité pour justement travailler un peu plus, puisque comme l'a très bien dit Emmanuel Puissant, en fait, un des grands enjeux, hein, c'est aussi la difficulté en fait à multiplier les heures de travail quand on travaille à domicile, puisqu'on doit multiplier les domiciles et les employeurs, et donc avec un temps de transport qui n'est pas compté, évidemment, comme salaire horaire. Et puis d'autres qui avaient peur également, hein, des risques sanitaires réels, d'autant plus qu'elles n'ont pas été équipées. Alors on a beaucoup parlé du déficit de, par exemple, de masques, de gel hydroalcoolique dans les EHPAD, les hôpitaux, et on a aussi beaucoup moins parlé en fait du déficit de ces équipements pour celles qui travaillent justement dans les maisons, du fait aussi de que ce soit des métiers beaucoup plus invisibles en fait, hein, donc voilà. Donc il y a eu ces deux réactions là, et certaines aussi se sont faites alors licenciées à long terme, ou alors voilà, ont perdu leur travail avec des gens qui finalement leur ont dit bon bah nous en fait on peut venir assurer, du coup comme on travaille plus, comme on est en télétravail, on peut nous-mêmes en fait assurer soit les tâches ménagères d'un parent, soit en fait on embauche une femme de ménage, donc du coup soi-même comme on est à la maison, bah on a décidé de soi-même faire les tâches ménagères, donc du coup
on leur a demandé
pour celles qui font des tâches de ménage. Oui.
Et est-ce que certaines ont touché le chômage partiel ou c'est seulement celles qui travaillent en structure ou dans les associations?
Alors, celles qui travaillent en structure et dans les associations, les structures et les associations ont essayé, hein, de mettre en place ce chômage partiel, en effet. Après, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui passent par l'emploi direct, soit par le CESU, le chèque emploi à service universel, donc un moyen en fait pour faciliter le financement des services ménagers ou d'aide à domicile, et qui permet de déclarer sa salariée au particulier employeur employeur de déclarer plus aisément ses salariés. Donc là, en fait, avec ce système, il était possible de mettre sa salariée au chômage partiel. Mais il faut aussi préciser que dans ces métiers-là, et ça rejoint la difficulté à compter en fait ces personnes-là, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui travaillent au noir. Et donc moi, j'ai rencontré énormément de gens qui travaillent au noir pour mes recherches. Et donc en fait, ces personnes-là sont juste pas protégées. Et donc en fait, lorsque l'employeur ne les rappelle pas, bah, elles perdent leur emploi. Et elles n'ont rien, en fait, pour être protégées. Elles n'ont pas de chômage partiel.
Et elles n'ont pas, évidemment, de syndicats. Il existe certains syndicats, ou au moins fédérations professionnelles, Emmanuel Puissant. Peut-être expliquez-nous la façon dont la profession s'est peu à peu structurée depuis les toutes premières formes d'entreprises d'aide à domicile, qui, en fait, datent des années 40. Mais ça a beaucoup évolué depuis.
Tout à fait. Alors... Oui, tout à fait. En fait, dans ce secteur-là, on a une double spécificité qui est effectivement l'origine domestique de ces emplois et le fait que les premières structures, effectivement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient des associations. Donc, si on ajoute ces deux types de spécificités, on avait au départ, donc exclusivement des femmes, qui, au tout départ, travaillaient bénévolement. C'était vraiment de l'entraide, hein, donc il y avait un petit peu la tradition ouvrière catholique chrétienne, la tradition mouvement ouvrier, voilà. Donc on avait plusieurs traditions, mais au tout départ quand même, on était dans du bénévolat. Et donc au fur et à mesure, ces emplois-là se sont indemnisés, puis salariés, et on a eu une structuration, des écoles de formation, des diplômes, etc. En revanche, vraiment insister, parce qu'on en paye encore aujourd'hui les conséquences, d'une histoire extrêmement lente de la reconnaissance de ces professions-là. Premières associations d'aide à domicile auprès des personnes âgées, pour les familles c'est un peu différent, pour les personnes âgées dans les années 40, premier diplôme d'État 2002. Donc on a effectivement une lenteur de la reconnaissance professionnelle, et donc effectivement la question de l'activité syndicale est une conséquence directe de cette lenteur-là et de ces difficultés à être reconnus comme des professionnels, voilà, puisqu'on a encore cette idéologie très forte. On a vu d'ailleurs un retour de cette idéologie dans les années 2005, hein, sur ces compétences-là finalement seraient des compétences féminines, on est toutes capables de faire le ménage chez soi, de s'occuper de ses parents, de ses enfants, donc on peut le faire chez les autres. Et donc, du coup, on a vraiment une difficulté à reconnaître ce secteur comme un secteur professionnel. Les organisations syndicales sont dans des secteurs professionnels, donc c'est aussi ce qui explique la lenteur de la prise de conscience de l'importance de ces emplois-là. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal travaillé avec des organisations syndicales, hein, et donc, effectivement, on voit que ce secteur devient vraiment... les organisations syndicales travaillent activement pour essayer de syndiquer dans ce secteur, mais les freins sont énormes. On parlait tout à l'heure des particuliers employeurs. Ce sont des salariés qui travaillent sur des horaires éclatés, sur des lieux de travail éclatés, et qui n'ont aucun lieu de regroupement collectif. Donc là, effectivement, on voit que c'est extrêmement compliqué, mais y compris dans des entreprises lucratives, dans des CCAS, ou même dans des associations, on a des temps de travail collectif qui sont de moins en moins nombreux, et de fait, les aides à domicile se voient de moins en moins, et donc c'est un frein énorme à toute forme d'organisation collective.
Qu'est-ce qu'on sait de leur temps de travail hebdomadaire moyen, Alizé Delpierre? Comment on le calcule d'ailleurs? Parce que vous disiez vous-même tout à l'heure, il y a tous ces moments où elles se déplacent, où il y a des moments qu'on peut pas vraiment calculer, qu'on peut pas mesurer en termes de temps de travail.
Oui, en effet, il y a un vrai enjeu autour de cette question du temps de travail, parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on annonce un chiffre sur l'aide à domicile issu des statistiques nationales, on a tendance à convertir en fait en emploi à temps plein. En fait, on dit bon bah voilà, il y a eu cette année par exemple X emplois à temps plein créé, etc. Mais en fait, ça masque la réalité, parce qu'en fait, ce qui se crée davantage dans tous ces emplois, ce sont des emplois à temps partiel, essentiellement à temps partiel, que certains, d'ailleurs, certaines sociologues ont décrit comme des miettes d'emplois ou des gisements d'emplois. Et en fait, donc, la plupart des salariés travaillent à temps partiel, donc n'arrivent pas à faire, en gros, 35 heures de travail hebdomadaire. C'est très difficile. Tourne aux alentours parfois d'une dizaine d'heures, d'une quinzaine d'heures, d'une vingtaine d'heures, etc. Et ça va dépendre aussi si elles passent par des structures ou si elles sont embauchées par des particuliers employeurs.
Et puis, elles effectivement, déplorent d'être à temps partiel quand beaucoup aimeraient être à temps complet, mais en même temps, elles regrettent d'avoir très peu de temps à passer avec chaque personne, voilà. De moins en moins de temps. Je crois qu'on a calculé à peu près le temps qu'elles peuvent passer chacune, mais qu'est-ce qu'il y a une sorte quand elles travaillent dans des structures, il y a une sorte de pression. Elles sont contrôlées. Comment elles sont contrôlées d'ailleurs, parce que les inspections ne peuvent pas entrer comme ça dans les domiciles des particuliers.
Oui, alors le contrôle du travail, c'est un vrai enjeu, hein, justement, qui est lié aussi au fait qu'elles aient que les conditions de travail soient difficilement contrôlables. Alors quand elles passent par des structures, en fait, les structures dans leur discours, hein, et s'efforcent d'essayer de sectoriser en fait les employeurs, c'est-à-dire si vous êtes aide à domicile et que vous travaillez sur Paris, on va essayer justement de vous laisser qu'à Paris, dans peut-être certains quartiers plus proches, etc. Mais en fait, le fait est que c'est pas vraiment, enfin, c'est jamais vraiment fait comme ça, et qu'on se retrouve avec beaucoup de femmes qui, même en passant par des structures, en fait, sont complètement dispatchées en fait dans différents départements. Et alors, concernant le contrôle justement des conditions de travail, il faut savoir qu'en France, donc l'inspection du travail ne peut pas aller, enfin. C'est un peu plus compliqué. C'est pas vraiment ne peut pas aller au domicile. C'est pas une interdiction, on va dire, légale d'aller inspecter votre domicile. C'est qu'en fait, elle ne le fait pas.
Alors, c'est pas une habitude, quoi.
C'est pas une habitude. Et pour avoir discuté avec plusieurs inspecteurs du travail, en fait, c'est un phénomène très complexe, parce que l'inspection du travail, en fait, va là où le gouvernement fixe ses priorités d'inspection, donc plutôt dans des grosses structures, des grandes entreprises, etc. Alors que le domicile n'est pas pointé comme en fait un lieu où il est prioritaire d'aller inspecter le travail. Et puis il faudrait également, il y a une espèce de principe aussi, qui est plus ou moins aussi écrit, de non-violation du domicile. Et donc en fait, il faudrait que ces personnes vous appellent une semaine avant pour vous dire, bon ben voilà, on vient contrôler le travail de la salariée. Donc du coup, le rôle d'inspection est un petit peu entravé, on va dire.
Emmanuel Puissant, ce qu'on peut dire sur les conditions salariales de ces aides à domicile, il n'y a pas, on comprend, de forfait jour, par exemple, ou de prix de journée qui existe dans certaines professions. Et par ailleurs, ces personnes, ce sont quand même souvent les particuliers qui les payent. Toutes les personnes âgées ne peuvent pas se permettre d'augmenter les salaires de ces aides à domicile. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça doit passer par une revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui d'ailleurs est calculée comment? Est-ce qu'elle est aussi en fonction des revenus des personnes âgées? Enfin voilà, comment prendre le problème à la source?
Alors, vous abordez là le nerf de la guerre, évidemment, c'est la tarification. Tout à l'heure, vous disiez effectivement sur le temps plein, les personnes voudraient travailler à temps plein, mais elles souffrent de plus en plus de passer moins de temps auprès des personnes. Ça, c'est pas lié au temps de travail, c'est vraiment lié à l'organisation et au financement du secteur. Juste, je fais un tout petit retour en arrière juste sur le temps de travail, parce que ça me paraît très important. En fait, le temps de travail, il y a vraiment un enjeu de reconnaissance de ce qu'est le temps de travail. Aujourd'hui, dans l'aide à domicile, il y a plus de licenciements pour inaptitude, il y a plus d'accidents du travail que dans le bâtiment et les travaux publics, par exemple. Le temps plein, si on estime le temps plein comme étant 35 heures d'intervention, ce temps plein est insoutenable. Donc, on se retrouve souvent face à des employeurs qui disent « le temps partiel est un choix », entre guillemets, parce que les salariés ne sont pas en mesure de faire 35 heures d'intervention. On a beaucoup travaillé avec d'autres collègues, il y a notamment les travaux de François-Xavier Deveter et Amandine Barois, qui ont estimé à 28 heures d'intervention comme étant l'équivalent d'un temps plein, pour pouvoir prendre en compte les temps de déplacement, les temps de coordination, les temps de travail collectif. Voilà. Ça me paraît important parce qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, et je vais quand même le dire, le salaire mensuel net moyen, il est de moins de 900 euros. Pour des femmes qui sont plus souvent que l'ensemble des employés à la tête de famille monoparentale. Ça me paraissait important d'avoir ces éléments chiffrés en tête, parce que on peut, du coup, voilà, la prime dite Covid de 1000 euros pour des temps pleins, vous voyez que c'est quelque chose qui va très peu exister dans les faits. Sur la tarification, effectivement, c'est clairement le cœur du problème. C'est lié à la tarification, la tarification et dépend des départements. Donc on a des tarifs horaires qui peuvent varier schématiquement de 20 euros de l'heure à 27 euros de l'heure en fonction des départements. Et donc effectivement, selon le tarif horaire, une association par exemple, qui va être dans un département à 20 euros de l'heure, une association qui aura beaucoup beaucoup incité ses salariés à se qualifier, la masse salariale va être plus importante, puisque heureusement, aujourd'hui encore, quand on est qualifié dans ce secteur-là, on doit avoir un salaire un petit peu plus élevé. Et donc, si on a un tarif horaire de 20 euros, si les salariés sont qualifiés et vraiment ont des savoir-faire professionnels pour s'occuper des aînés, soit elles sont sous-payées, soit les personnes âgées doivent compléter effectivement l'évaluation APA qui est évaluée, pour répondre directement à votre dernière question, à la fois sur leur degré de perte d'autonomie ou de dépendance, hein, avec la grille aux ressources, et leur niveau de revenu également. Mais pareil, l'arbitrage a des variations aussi en fonction des départements.
Donc d'où les vacances de postes. Je crois qu'on a estimé à 60 000 le nombre de postes vacants. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'ailleurs de postes vacants, mais on dit que les candidatures au concours d'accès, par exemple, puisqu'il existe aujourd'hui des diplômes, hein, vous le rappeliez Emmanuel Puissant, ont baissé le nombre de candidatures de 25 ans en 6 ans. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui, malgré le fait qu'ils pourraient bénéficier à des personnes peu qualifiées, c'est de l'emploi quand même facilement trouvé, local, ça n'attire pas parce que ce n'est pas assez valorisé. Alizée Delpierre.
Oui, tout à fait. Alors c'est et en plus quand on pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel Puissant, quand on dit un emploi 20 euros ou 27 euros de l'heure, c'est pas ça qui tombe dans la poche directement hein, de salariés. Elles gagnent pas 25 euros de l'heure hein, en fait, mais beaucoup
bien
moins
sûr,
hein, puisque
taxé,
voilà, hein, faut déduire. Je précise juste hein, parce que voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à la fin à un salaire complètement en deçà de 1000 euros. Mensuel. Et donc pour rebondir sur votre question, alors en fait il y a en fait en France une volonté de professionnaliser le secteur des services à la personne, avec la création de diplômes, de certifications, de formations relativement courtes qui puissent être accessibles, voilà, parce que bon, ça serait compliqué en fait de proposer un diplôme par exemple sur 5 ans plein vu les conditions, parce que ces femmes doivent travailler en même temps qu'elles se forment, etc. Donc il y a des modules hein, professionnels qui sont proposés notamment par qui tout ça est chapeauté par l'Institut Hyperia, donc qui est l'institut en fait en France qui certifie les formations aussi d'aide à domicile, de services ménagers, etc. Mais alors le problème, c'est que en fait, il y a peu de salariés qui participent à ces formations-là. Alors ça, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est que d'une part, elles ne sont pas forcément au courant que ça existe. Et ça, en fait, il y a un vrai enjeu d'information aussi quand on les rencontre sur le terrain. On se rend compte que beaucoup de femmes qui travaillent au domicile d'autrui ne sont pas au courant de leurs droits, de l'existence de conventions collectives, de l'existence de formations,
d'accords de branche,
de syndicats, etc. Et puis par ailleurs, du côté des employeurs, parce que pour avoir fait beaucoup de recherches du point de vue des employeurs aussi, parce que c'est important pour comprendre comment eux conçoivent ces métiers-là, beaucoup considèrent, et encore une fois, comme le disait Emmanuel Puissant, que bon, bah voilà, c'est un métier qui nécessite pas de diplôme. Donc en fait, on s'en moque de recruter quelqu'un qui a fait un petit module de formation, etc., pour le ménage, parce qu'en fait, on considère que tout le monde sait faire le ménage.
Mais donc les employeurs n'y ont pas non plus nécessairement intérêt. Quand je dis les employeurs, les structures n'ont pas nécessairement intérêt à avoir des salariés qualifiés, puisqu'il faut les payer davantage. Or, comme vous dites, la tendance est de croire qu'on n'a pas besoin d'être qualifié pour exercer ces métiers.
Alors après, elles disent qu'elles ont intérêt, parce que bon, les structures ont aussi elles se présentent comme ayant un devoir aussi quand même de protection en fait de ces salariés, d'amélioration de leurs conditions de travail. Mais c'est sûr que dans les faits, en termes ensuite de recrutement et de placement de ces salariés, dans les enquêtes qualitatives, on observe que finalement, c'est pas vraiment ce qui compte, le diplôme, dans le recrutement de ces personnes-là, contrairement à d'autres marchés du travail.
Voilà, d'où la nécessité de restructurer la profession. Et le gouvernement a annoncé pendant le confinement l'imminence d'une loi sur l'autonomie et les personnes âgées, promise d'ailleurs depuis 2 ans. On verra s'il est question d'intégrer dans cette loi la question de ces métiers du lien. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans le magazine du week-end pour en parler. Merci Emmanuel Puissant, maîtresse de conférence en économie à Grenoble et chercheuse au CREG, centre de recherche sur l'économie de Grenoble. Et merci à vous, Alizée Delpierre. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, diplômée du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris. Merci à vous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, Catherine Donnet, Lucas Lazo et Léo Grillet, réalisée par Véronique Samouilov. À la prise de son, c'était Florent Bujon.